à la fin des années 50 et au début des années 60 par l'intermédiaire du ministère de David Duplessis. Donc, en 1958, on a vu que David Duplessis avait s'était trouvé confronté avec une opposition de la part des pentecôtistes. Et d'ailleurs, lui-même était aussi déçu de voir que son combat pour l'unité des pentecôtistes n'aboutissait pas. Et donc, il avait été amené à intervenir au niveau du Conseil œcuménique, comme nous l'avons vu. En 1962, il s'était fixé en Californie avec sa famille, ce qui était son pied-à-terre. Il avait d'ailleurs trouvé sa maison d'une manière tout à fait miraculeuse là-bas, après une vision qu'un pasteur baptiste avait eue pour lui, en lui disant que c'était là-bas que le Seigneur lui avait préparé un lieu. Donc, en 1961, avait eu lieu à New Delhi une conférence du Conseil œcuménique des Églises, conférence au cours de laquelle, d'ailleurs, les Églises orthodoxes étaient entrées dans le COE, dans le Conseil œcuménique des Églises, et David Duplessis avait donc participé à cette rencontre, la première rencontre du COE à laquelle David Duplessis avait participé. Et donc, c'est peu de temps après qu'il avait été invité à Rome par le prêtre qu'il avait rencontré dans une de ses rencontres et qui en avait rendu compte à Jean 23 lui-même. Il avait tellement été impressionné par ce qu'il avait entendu de la bouche de David Duplessis qu'il avait donc il en avait fait un rapport personnel au pape qui avait demandé personnellement lui aussi que David Duplessis puisse venir à Rome, au Vatican, pour s'entretenir de ces choses. Et c'est ainsi que David Duplessis s'était trouvé au Vatican, évidemment, avec une certaine surprise des voix de Dieu. Et ce qui l'a tout à fait frappé, c'est que quand il est arrivé à la gare de Rome, il y avait, pour l'attendre à la descente du train, tout un parterre de prêtres. Il était presque avec le tapis rouge, pas quand même, mais enfin, c'était pas loin, n'est-ce pas ? Et ces prêtres l'ont emmené directement à son hôtel, l'hôtel qui lui était réservé. Peu de temps après, juste quelques heures après qu'il se soit installé dans son hôtel, un émissaire du secrétariat pour l'unité des chrétiens frappait à sa porte et lui disait que Jean 23 avait donné l'ordre de chercher à savoir de sa bouche qui étaient ce qu'étaient les pentecôtistes, s'ils voulaient bien venir. Le cardinal Béat, qui était le responsable du secrétariat pour l'unité des chrétiens à cette période-là, le bras droit de Jean 23 pour ce qu'était l'œcuménisme, l'attendait. Et c'est ainsi que Jean 23 s'est trouvé donc 6 via dell'Erba, où nous nous sommes trouvés il y a quelques années à notre tour, n'est-ce pas ? J'imagine très bien la scène, parce que... ça nous est un peu arrivé aussi. Et donc, il s'est trouvé là, dans ce grand salon, en compagnie donc, du cardinal Béat. Et pendant tout un temps, donc, David Duplessis a expliqué au cardinal Béat ce qu'était la Pentecôte, ce qu'était le baptême dans le Saint-Esprit, ce qu'était le mouvement de Pentecôte. Et le cardinal Béat lui a posé la question, lui a dit, « Quel est le message que les pentecôtistes voudraient donner à l'Église catholique ?» En quelque sorte, vous êtes ici leur porte-parole. Qu'est-ce que les pentecôtistes attendraient de l'Église catholique ? Alors Duplessis a dit, vous savez, les pentecôtistes n'ont pas grand-chose à dire à l'Église catholique. Ils n'aiment pas beaucoup. Mais il dit, je vais vous parler en tant que pentecôtiste en mon nom personnel. Il dit, si vous pouviez mettre la Bible dans chaque foyer catholique, voilà ce que nous souhaiterions. Et le cardinal Béat a pris note. Et il a dit qu'il allait faire tout ce qui était en son possible pour que cela soit ainsi. Et de fait, au moment du Concile Vatican II, qui a suivi quelque temps après, eh bien donc, il a milité de cette manière. Et au cours de l'entretien, le cardinal a dit à Duplessis, est-ce que vous voulez m'attendre une petite seconde ? J'ai un coup de téléphone urgent à donner. Et alors bon, il est passé dans le bureau à côté, bien entendu... Duplessis n'entendait pas, il entendait simplement une voix, le bruit d'une voix, mais sans être capable de distinguer ce qu'il disait, jusqu'au moment où il a entendu le cardinal Béat qui s'excitait, qui commençait à crier. Il dit « Mais je vous dis, il est là dans mon bureau, c'est un saint, mais je vous dis que c'est un saint !» Et du coup, j'ai dit, je suis même pas encore mort, et les catholiques disent que j'ai déjà que je suis un saint. Il téléphonait au pape, il téléphonait à pape pour donner à Jean XXIII le compte-rendu de son entretien avec lui, quoi. Voilà donc comment M. David Duplessis a été canonisé, si j'ose dire encore, par le pape. Et c'est ainsi que donc le cardinal Béat a invité David Duplessis au Concile Vatican II qui s'est ouvert il est arrivé là-bas en 1964. Et, en tant qu'observateur, donc en tant qu'observateur pentecôtiste. Et chose extraordinaire, alors que Duplessis s'attendait à une levée de bouclier extraordinaire de la part des pentecôtistes, les pentecôtistes lui ont donné son aval. Ils ont reconnu qu'il y avait quelque chose de Dieu dans cette affaire. Bon, David Duplessis n'intervenait pas évidemment dans les séances plénières, il n'en avait pas le droit, il était là simplement comme observateur. Mais par contre, il avait la possibilité de s'entretenir avec les prélats les plus haut placés pendant les suspensions de séances. Et il racontait notamment une conversation qu'il avait eue avec un de ses évêques, qui lui a demandé « Mais comment un pentecôtiste comme vous peut se sentir dans cette assemblée ?» Alors David Duplessis lui a répondu « Je me sens comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. » « Ah ouais, qui dit l'autre, c'est bien, je m'attendais à ça, quoi. » Et David Duplessis lui a dit « Attendez, c'est pas fini. Les ossements se sont rapprochés et puis l'Esprit de Dieu a soufflé sur eux. » Il dit « Moi, je prie pour que les ossements se dessèchent, et puis que l'Esprit de Dieu descende sur votre Église, et puis que quelque chose se passe un petit peu comme il s'est passé dans la vallée des ossements desséchés. » On en est encore loin, mais enfin, ça a été donc un grand moment, et à partir de ce moment-là, donc, David Duplessis a été introduit à fond dans l'Église catholique après Vatican II. Donc c'était ici au début des années 60, au milieu de la décennie, puisque le concile s'est terminé, si je ne m'abuse, en 1965. C'est cette même année, quittant Rome, qu'il est repassé par le Japon. Japon, vous savez, qui est très réfractaire à l'Évangile. Et là, il a eu aussi la surprise de voir que des dizaines de milliers de personnes l'attendaient. Et là, il a eu, pendant le séjour qu'il a effectué au Japon, il était accueilli aussi à la gare par des foules extrêmement nombreuses. Il y a eu donc un extraordinaire réveil qui s'est produit au Japon pendant les quelques mois où il est resté dans ce pays. Et c'est donc à la fin de la décennie, en 1969-70, que le réveil a éclaté à fond dans l'Église catholique. Nous aurons l'occasion de revoir justement dans quelles circonstances. C'était en août 1961 qu'un professeur de l'Université catholique de Duquesne à Pittsburgh, aux États-Unis, a entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. C'était l'époque où un grand homme de Dieu était en train d'accomplir une œuvre remarquable aux États-Unis, c'était David Wilkerson. David Wilkerson, qui avait été amené par le Seigneur à s'occuper des jeunes drogués, délinquants des bas-fonds de New York. Vous connaissez tous l'histoire de David Wilkerson, et notamment cette extraordinaire conversion d'un des rois des gangsters là-bas, portoricain de New York, Nicky Cruz. Et un peu après cette période, David Wilkerson a relaté son aventure dans un livre qui est devenu un des best-sellers dans tous les milieux charismatiques, s'appelle « La croix et le poignard ». D'abord, écrit en anglais, bien sûr, et The Cross of the Sweet Bed, et ensuite traduit dans beaucoup de langues, notamment en français. Et donc, un certain nombre de conseillers de l'université de Duquesne, dont en particulier Ralph Martin, qui était un des professeurs de l'université, et Steve Clark, ont eu l'occasion de lire le livre de Wilkerson. Et notamment, ils ont été impressionnés par le fait que David Wilkerson disait qu'il avait accompli son œuvre par la puissance du Saint-Esprit qu'il avait donc reçu, le baptême dans le Saint-Esprit. Et beaucoup de ces gens qui étaient confrontés aussi avec des problèmes de jeunesse délinquante, etc., et qui avaient échoué lamentablement en employant des moyens psychologiques, sociologiques et autres, n'est-ce pas, qui cherchaient justement un moyen de répondre à ce défi, n'est-ce pas, se sont dit qu'il y avait peut-être là quelque chose à étudier. Dans le même temps, un journaliste presbytérien et sa femme, John Cheryl, John et Elizabeth Cheryl, ont été amenés à faire une enquête dans les milieux charismatiques. C'était l'époque où beaucoup d'églises protestantes, aux États-Unis notamment, s'étaient ouvertes au charisme pendant toute cette décennie des années 60. Alors que l'Église catholique s'ouvrait timidement, la plupart des grandes dénominations protestantes avaient donc accepté le baptême dans le Saint-Esprit et donc accepté qu'il y ait dans leur sein des gens qui manifestaient les charismes et qui croyaient donc au baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que John Cheryl, qui était lui-même d'origine presbytérienne, a été amené par différentes circonstances qu'il relate dans son livre à entrer en contact avec ces milieux-là. Puis ensuite, en tant que bon journaliste, il est évidemment remonté à la source, c'est-à-dire à David Duplessis lui-même, qu'il a longuement interviewé. Et lui-même a fini par recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ainsi que sa femme, et se joindre à fond à ce mouvement-là. Il a donc écrit un livre qui s'appelle « Il parle en d'autres langues », qui est devenu le deuxième best-seller du début du mouvement charismatique à la fin des années 60. Et c'est ainsi donc que ces catholiques ont aussi eu entre les mains le livre de John Cheryl. Ils parlent en d'autres langues, ils ont été vivement impressionnés. C'est alors qu'en 1966, ils se sont rassemblés pour, à la fin au début de l'année universitaire, un week-end, pour une retraite spirituelle, c'était dans le bâtiment 366, dans la salle 366 du bâtiment administratif de l'Université Notre-Dame, où il y avait 30 à 40 personnes qui participaient à cette retraite, dont des prêtres, des religieuses et des laïcs. Et somme toute, l'interrogation de ces gens était à peu près la même que celle qui avait entraîné les jeunes dans la ferme de Topeka en 1901, très exactement, n'est-ce pas ? Sous la direction du pasteur Parham, quel était le secret de la puissance de l'Église ancienne et comment se fait-il que cette puissance, l'Église moderne, ne la connaissait plus ? C'était finalement leur problème. Auparavant, donc, les participants à cette retraite avaient tous lu les deux livres dont nous avons parlé, « La croix et le poignard » d'une part et « Ils parlent en d'autres langues » d'autre part. Et pendant 2 mois, ils en avaient discuté dans des groupes d'échange qui avaient eu lieu. C'était essentiellement un prêtre épiscopalien qui était venu aussi invité par ces gens-là. Prêtre épiscopalien qui s'appelait William Lanes et qui, lui, avait fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Les participants de cette retraite de l'Université Duquesne donc, s'étaient interrogés pour savoir qui ils devaient inviter. Ils avaient d'abord pensé se tourner vers les pentecôtistes classiques, mais ils savaient que les pentecôtistes classiques n'étaient pas très ouverts vis-à-vis des catholiques. Et ils craignaient de se heurter, sinon à un refus, du moins à des contacts plus ou moins difficiles avec ces pentecôtistes-là. Si bien qu'il s'était tourné vers l'Église qui était la plus proche, au point de vue structure de l'Église catholique, l'Église épiscopalienne, c'est-à-dire la branche américaine de l'Église anglicane. L'Église anglicane s'appelle donc Church of England, Église d'Angleterre en Angleterre. Hors d'Angleterre, elle s'appelle Église épiscopalienne. Mais c'est finalement la même réalité, exactement comme l'Église réformée s'appelle l'Église réformée dans les pays d'Europe, elle s'appelle l'Église presbytérienne dans les pays anglo-saxons. Bon. Et c'est ainsi que ce William Lane, qui était d'ailleurs très proche de l'Université de Notre-Dame sur le plan géographique, parce qu'il était donc pasteur de la paroisse de Christ Church, qui se trouvait non loin de là, donc c'était quelqu'un qu'il connaissait, Donc, s'est retrouvé avec eux dans ce week-end pour témoigner de son expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et alors, la première question qu'on a posée à William Lane, c'était qu'est-ce qu'il fallait penser du livre de Wilkerson. Finalement, il y avait toutes sortes d'interrogations sur ce livre, et William Lane répondit, écoutez, c'est pas compliqué. J'ai un de mes paroissiens qui s'est converti par le ministère de Wilkerson, il va vous expliquer. Il décroche le téléphone, il appelle ce paroissien qui vient immédiatement. Et chose extraordinaire, n'est-ce pas? Finalement le Ralph Martin, enfin un des participants du groupe qui a ensuite parlé au téléphone avec ce paroissien qui était rempli du Saint-Esprit au bout du fil et qui a commencé à lui dire ah bah oui mais bien sûr moi j'étais baptisé dans le Saint-Esprit avec personne tout ça j'étais drogué j'étais ceci j'étais cela puis au téléphone il commence à et voilà qu'au bout du fil notre brave catholique se met à parler en langue baptisé dans le Saint-Esprit simplement par le contact téléphonique qu'il avait avec cet homme qui avait donc été baptisé dans le Saint-Esprit. Et donc, c'était donc dans cette fameuse rencontre, cet individu qui s'appelait Patrick Bourgeois est arrivé donc quelques instants après. Et ce Patrick Bourgeois, avec William Lanes, après avoir parlé longuement avec les participants, ont prié pour eux. Ils ont demandé d'ailleurs à descendre dans la chapelle pour un temps de prière. Et là, donc, d'abord une jeune étudiante a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et puis, ça a été une explosion pour tous les participants qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a eu une réunion de prière qui a duré toute la nuit dans cette chapelle. Et ça a été le début, donc, du mouvement en milieu catholique. Les participants donc ont fait part de leur témoignage de ce qui s'était passé un peu partout et ils ont commencé des réunions pour expliquer ce qui leur était arrivé cette fameuse nuit. Et c'est ainsi que le 6 janvier 1967, il y a eu donc une nouvelle rencontre avec de nouveaux participants, rencontre qui avait commencé dès le vendredi soir d'ailleurs. Et une deuxième rencontre a eu lieu le 13 janvier suivant. Puis ensuite, du 18 au 19 février, des jeunes étudiants, à leur tour, ont demandé à être baptisés, on prie pour eux pour qu'ils soient baptisés dans le baptême dans le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, avaient déjà lu La Croix et le Poignard. Et donc, bientôt, c'est toute l'université Notre-Dame de Duquesne qui a été donc bouleversé, tout le monde n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, mais enfin, tout le monde parlait de ce qui s'y passait. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de là, le mouvement s'est répandu parmi les catholiques américains et canadiens comme une traînée de poudre. Notamment, il y avait un couple de professeurs à l'Université Notre-Dame de Duquesne, s'appelait donc Kevin et Dorothy Ranagan, qui sont venus aussi participer à un des week-ends de Duquesne. Et ils avaient été contactés par Ralph Martin, qui leur avait expliqué ce qui s'était passé. Et ils ont donc organisé une réunion dans une ville voisine qui s'appelait South Bend. Il y avait là aussi des hommes d'affaires qui assistaient. Ils étaient à environ 70 personnes qui étaient là. Et ce soir-là, presque tout le monde a été baptisé dans le Saint-Esprit et s'est mis à parler en langue. Par conséquent, donc, les Ranagan sont devenus les théologiens catholiques du mouvement. Et ils ont écrit donc « Le mari et la femme », un troisième livre qui est venu un best-seller, alors cette fois-ci en milieu catholique, qu'on appelait à cette époque-là le catholicisme pentecôtiste, et qui s'appelait donc « Le retour de l'esprit ». Pourquoi « Le retour de l'esprit » Parce que les Ranagan montraient que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit qu'il venait d'effectuer n'était pas quelque chose de nouveau dans l'Église catholique. Et que somme toute, d'abord, dans l'Église ancienne, bien sûr, à l'époque du livre des Actes, que l'Église catholique considère comme étant lui appartenant, et l'Église catholique se réclame de l'Église du livre des Actes. Bon. Par conséquent, donc, montrer que déjà, c'était tout à fait conforme avec ce qu'avaient vécu les premiers chrétiens. Puis ensuite, dans toute l'histoire de l'Église catholique, il y avait eu, comme d'ailleurs à l'extérieur de l'Église catholique, des individus, qui, ça et là, avaient fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Des individus qui, comme en milieu protestant, n'en avaient pas fait état publiquement parce qu'ils considéraient que c'était des grâces qui leur étaient accordées pour eux seuls, ce que l'on appelait des mystiques, souvent étaient des gens qui avaient fait, somme toute, des expériences du baptême dans le Saint-Esprit, disaient les Ranagan. Et par conséquent, essayer aussi d'expliquer, c'était la première, en quelque sorte, tentative d'expliquer l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit dans le cadre d'une théologie catholique. Bon, c'était le premier pas aussi vers quelque chose qui devait ensuite dériver, bien sûr. Ensuite, en automne 1967, il y a eu un deuxième professeur de théologie qui s'appelait O'Connor, qui lui aussi a fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, le baptême dans le Saint-Esprit a fini par être considéré comme quelque chose qui n'était pas du tout incompatible avec la foi catholique, mais qui était tout à fait conforme avec à la fois l'Écriture sainte, avec la tradition de l'Église catholique, dans la mesure où il y avait des individus, comme on l'a dit tout à l'heure, qui avaient fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, et troisièmement, avec Vatican II, dans la mesure où justement Jean XXIII, au moment du Concile de Vatican II, avait appelé à une nouvelle Pentecôte. Et Duplessis était certain que c'était son intervention qui avait amené le pape à dire que l'Église catholique avait besoin d'une nouvelle Pentecôte, et il avait plaidé au moment du Concile, de l'ouverture du Concile, pour une nouvelle Pentecôte. Vous savez que Jean XXIII était mort donc pendant le Concile, et que ce Concile qu'il avait commencé, c'est finalement son successeur, Paul VI, qui l'a achevé, mais l'orientation très forte qui avait été donnée par Jean XXIII au départ allait justement dans ce sens-là. Au bout de quelques années, au milieu des années 70, c'était des milliers et des milliers de pentecôtistes catholiques qu'il y avait aux États-Unis. Des États-Unis, le mouvement avait gagné le Canada. Le Canada, où d'abord un évêque qui était à la frontière du Canada, l'évêque du Michigan, avait lui-même été baptisé dans le Saint-Esprit et favorisé donc à fond l'expansion du mouvement charismatique dans son diocèse. Et puis, aux États-Unis, c'était un moine trinitaire du nom de Jean-Paul Rugimbal qui avait fait une expérience du baptême dans le Saint-Esprit dans des conditions assez étonnantes. Il avait été gravement malade et il avait donc dû changer d'air, puisque le Canada était très froid. Il avait dû aller dans le sud des États-Unis et il avait donc été muté dans une paroisse où il faisait un remplacement d'un curé qui lui aussi était en convalescence. Et un beau matin, il a vu arriver dans son bureau une de ses paroissiennes qui est venue lui faire part de propos tout à fait étonnants, lui disant qu'elle avait été baptisée dans le Saint-Esprit, elle avait parlé en langue, etc. Jean-Paul Rugimbal était psychiatre de formation, médecin psychiatre, et par conséquent, il a d'abord cru qu'il avait affaire à une folle. Et tout en l'écoutant gentiment, n'est-ce pas, il essayait de faire un diagnostic, essayait de voir un petit peu dans quelle catégorie de maladie mentale il devait placer cette personne. Alors il avait découvert qu'elle devait être une paranoïaque comme ci, comme ça. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait trouvé. Bon. Et puis bon, cette dame était partie. Et puis il avait laissé à ses méditations. Et donc il dit, ouais, elle est complètement folle, quoi, la pauvre. Puis quand même, comme c'était un homme honnête, s'était dit, mais ces symptômes ne correspondent pas tout à fait à cette affection, parce que ces gens-là, les paranoïaques du type qu'il pensait qu'elle était, quand on les contre, ils se fâchent. Et elle, quand je la contrais, elle restait très, très sereine et elle répondait avec des arguments de bon sens. Et elle s'est dit, et si c'était moi qui étais l'idiot? Alors, il a pris la Bible et il a commencé à étudier la Bible, le livre des Actes, les Épîtres, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 12, 13, 14 de Paul, etc. etc. Puis il s'est dit, mais ça colle avec ce qu'elle dit. Deuxième démarche, oui, mais alors, dans l'Église catholique. Alors il a pris les pères de l'Église. Ah, mais les pères de l'Église, ils croyaient au baptême dans le Saint-Esprit. Tertullien dit que quand les néophytes sortaient de l'eau du baptême, on s'attendait à ce qu'ils se mettent à parler en langue, que Justin dit à Tryphon dans le dialogue avec Tryphon qu'ils ont des guérisons, ils ont des charismes, ils ont des prophéties, etc. Puis continuer, remonter dans le temps, les moines de Cluny, Oh, je dis, mais ça colle, ça colle. Puis troisièmement, il a pris Vatican II, les textes de Vatican II. Et puis, il a vu ceci. Les charismes doivent être reçus avec reconnaissance et avec joie de la part du Seigneur. Bon, il est d'accord. Il s'est rendu chez cette dame. Elle était en train de faire sa vaisselle dans sa cuisine, en train d'essuyer ses assiettes. Il est rentré chez elle et lui dit, écoute, c'est moi l'imbécile, c'est toi qui as raison, impose-moi les mains. Il s'est mis à genoux sur son carrelage dans sa cuisine. Elle a posé l'assiette qu'elle était en train d'essuyer, elle lui a imposé les mains, il a été baptisé dans le Saint-Esprit immédiatement. Et à partir de là, donc, le réveil, il est retourné au Canada, dans son monastère, et là, il a commencé à prêcher ce qu'il avait vécu. Et puis, quelques temps plus tard, alors il a fait des expériences absolument remarquables dans le domaine des charismes, et le Seigneur lui a dit, bien voilà, il faut que tu ailles en Europe pour répandre ce message parmi les Européens et parmi les Français en particulier. Puisqu'il était donc Canadien-Français lui-même, bilingue bien sûr, comme beaucoup de Canadiens-Français. Et donc, au milieu des luthériens d'abord. Et là, il est allé faire une première tournée en Europe, parmi les luthériens d'Allemagne, de Scandinavie, etc. Bon, et puis il est rentré. Et c'est dans cette période-là que, là aussi, donc, d'autres sont entrés à fond, des hommes de très grand niveau sont entrés dans le mouvement charismatique et ont pris contact avec David Duplessis. David Duplessis, qui à ce moment-là est devenu celui qu'on a appelé le patriarche de la Pentecôte. Ça a été l'apogée du ministère de Duplessis. Et il y a eu toute une équipe qui s'est mise en place autour du père McDonnell, qui était un catholique, du pasteur Rodnam William, qui était directeur du séminaire théologique presbytérien d'Austin au Texas, et d'Arnold Bicklinger, qui lui aussi donc était un de ces théologiens protestants. En Europe, le mouvement était encore très très embryonnaire. Et c'est donc au début des années 70 que le mouvement a commencé à pénétrer en Europe. En Europe, donc, il y avait déjà des mouvements préparatoires. On a vu, par exemple, en France, les baptistes, toute une partie des baptistes étaient déjà dans le réveil charismatique depuis de très nombreuses années, des dizaines d'années. Il y avait l'Union de prière de charme. En Suisse romande, il y avait l'Union romande pour le réveil. En Italie même aussi, n'est-ce pas, le pasteur Mac Ternan, qui était pasteur de l'Assemblée de Dieu de Rome, qui avait eu l'occasion de recevoir Duplessis quand Duplessis était venu au Concile de Vatican II, il avait pris contact avec le pasteur Mac Ternan et il s'était ouvert, lui, au mouvement charismatique et il est devenu un des leaders du mouvement en Italie. Duplessis était allé aussi quelques années auparavant en Angleterre et en Écosse, et là, dans l'église anglicane, il y avait aussi donc un puissant mouvement de l'esprit qui avait éclaté à la suite des visites de Duplessis. Notamment, il y avait un prêtre anglican qui s'appelait Michael Harper, qui s'était tourné vers le réveil charismatique et qui avait créé un centre charismatique qui s'appelait Fountain Church, l'église de la fontaine. Pendant 5 ans, donc, ce mouvement s'était développé et avait touché bien des milieux en Angleterre. Donc déjà, les bases étaient posées pour qu'il en soit ainsi. Et c'est ainsi que Reginbald est retourné une deuxième fois, cette fois-ci avec Duplessis, et il a traduit Duplessis dans plusieurs rencontres qui ont eu lieu à cette période-là. C'est dans cette période aussi que Yvon Charles et Clément de Cossec ont eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises le père Reginbald, une première fois en 1970 dans son couvent du Canada, et donc l'inviter pour une retraite de carême, une retraite interconfessionnelle qui avait lieu depuis déjà 1 an à Carré. Donc en novembre 1971, Jean-Paul Reginbald est venu à Carré C'était sa première visite en France. Il a eu l'occasion donc de parler ici à des pasteurs de toutes les dénominations. Bien entendu, la présence d'un prêtre catholique baptisé dans le Saint-Esprit avait attiré beaucoup de gens qui ne venaient pas à ces rencontres d'habitude et qui venaient par curiosité, mais qui sont retournés véritablement convaincus de l'authenticité et de la réalité de ce que le père Eginbald avait vécu, d'autant que le père Eginbald avait tellement évolué à cette époque-là sur le plan théologique qu'il ne restait plus que deux points de divergence sur le plan théologique, nous n'étions pas d'accord avec lui. Le premier, c'était sur l'Immaculée Conception ou l'Assomption, quelque chose comme ça. Et le deuxième, c'était sur la transsubstantiation, c'est-à-dire la présence réelle dans la messe. Autrement, sur tout le reste, sur la structure de l'Église, sur le fait que la papauté n'était pas biblique et des choses comme ça, était 100% d'accord. Bon. Donc, si vous voulez, là, c'était un grand moment. Bien. Le père Eginbald a été réinvité. Alors, le père Eginbald est aussi allé au monastère de Timaduk, introduit par Yvon Charles. Et là, il a amené donc toute une partie de la communauté de Timaduk à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit après avoir prié pour eux avec Yvon Charles. Ceux qui avaient entendu Eginbald ont décidé de le réinviter. Et notamment l'année suivante, en 1972, il a été réinvité pour la première convention charismatique interdénominationnelle qui se tenait à la porte ouverte. Sous la direction aussi de Thomas Roberts, mais Yvon Charles avait refusé finalement de s'associer à cette rencontre parce que il estimait que là il y avait une dérive qui était inquiétante, dans ce sens que on mettait le peuple en contact avec un catholique. Il estimait qu'il y avait une différence entre mettre des pasteurs qui étaient des gens avertis et qui pouvaient éventuellement faire la part du feu s'il y avait besoin. Parce que, Eginbald était quand même catholique, et puis finalement le peuple, lui, qui pouvait éventuellement avaler des hérésies catholiques sans même s'en rendre compte. Ce qui d'ailleurs a eu lieu et qui a entraîné justement une dérive du mouvement charismatique, comme on l'a vu quand on a étudié le mouvement charismatique en France. Bon, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit quand on a étudié donc l'histoire du mouvement charismatique en France. Là, nous étudions l'histoire du mouvement charismatique sur un plan beaucoup plus large. Et donc, je m'attacherai simplement à ce qui s'est produit en Europe. Donc, cette même année, le mouvement charismatique a véritablement démarré en Europe. Et là, alors, un phénomène nouveau s'est produit. Aux États-Unis, le mouvement charismatique catholique avait éclaté comme une véritable bombe, sans que l'épiscopat américain s'y attende du tout. Et l'épiscopat américain a été absolument débordé, dépassé par l'ampleur du mouvement. Il a été incapable de le canaliser, il a été incapable de le contrôler dans les premières années. Petit à petit, il a réussi à en mettre en place des structures qui ont permis de récupérer le mouvement. Mais dans un premier temps, il a été totalement dépassé. C'est la raison pour laquelle il y a eu alors là des choses véritablement authentiques. Mais le catholicisme, qui est une organisation mondiale, s'est bien rendu compte que le mouvement allait certainement traverser l'Atlantique. Il n'en resterait pas dans le Nouveau Monde. Et les évêques américains ont tenu leurs collègues européens au courant de l'évolution des choses, je ne dirais pas jour après jour, mais enfin... avec des contacts très souvent, en leur disant en gros ceci, préparez-vous à ce que ce mouvement éclate chez vous. Mettez en place les structures pour le canaliser, pour que vous ne soyez pas pris de court comme nous avons été pris de court. Si bien que quand le mouvement charismatique catholique, pentecôtiste catholique, comme on l'appelait alors, c'est intéressant, vous allez voir tout à l'heure l'évolution sémantique, elle est tout à fait caractéristique. Quand ce mouvement est arrivé en Europe, les structures étaient prêtes au sein de l'Église catholique pour canaliser le mouvement et pour le récupérer et pour qu'il ne soit pas trop dérangeant pour l'Église catholique. Et c'est ainsi que des responsables avaient été déjà désignés par l'épiscopat européen pour canaliser le mouvement. En sorte que lorsque Réginbald est venu en France, et que le mouvement a éclaté dans un certain nombre d'abbayes, Timadeuc, mais aussi une grande abbaye de Normandie, le Bec-et-Loin, et beaucoup d'abbayes ont été touchées par le mouvement charismatique, les responsables européens se sont rassemblés en Allemagne, à Schlossheim, avec Duplessis et Réginbald, pour une grande rencontre charismatique européenne. En fin de compte, c'était pour mettre le mouvement charismatique sous l'été noir. Nous avions deux de nos frères qui étaient là-bas, Yvon Charles et Charles Zé, et qui sont revenus parfaitement conscients que c'était ce qui avait été la manœuvre qui avait eu lieu. Et c'est ainsi que, par exemple, on ne parlait déjà plus à cette époque-là de baptême dans le Saint-Esprit. Déjà, le mot baptême était mis de côté. On parlait d'effusion du Saint-Esprit. Bon, vous allez me dire, le mot est biblique aussi, d'accord. Mais enfin, c'était déjà une nuance qui en disait long. Et dans les premiers temps, nos frères ont été étonnés quand ils entendaient les témoignages d'un tel endroit. Il y a eu une retraite avec 24 personnes. Les 24 sont partis baptisés dans le Saint-Esprit. À tel autre endroit, il y a eu une retraite avec 58 personnes. Les 58 personnes sont retournées baptisées dans le Saint-Esprit ou plus baptisées, mais enfin, ayant reçu l'effusion de l'Esprit. Et voilà, il y avait des résultats à 100%. Alors, ils étaient un peu épatés quand même. Nous, les pentecôtistes classiques, à cette époque-là, on était encore dans le mouvement de Pentecôte. Bon, on n'arrive pas à avoir 100% de résultats, 100% de baptisés dans le Saint-Esprit. Franchement, là, chapeau, là, l'Esprit de Dieu est puissant. Puis, au bout d'un temps, ils se sont rendus compte que ces gens-là, finalement, qu'on disait baptisés dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'était passé? On leur avait imposé les mains et on les avait déclarés baptisés dans le Saint-Esprit parce que c'était la vision sacramentelle catholique. Ça veut dire que le sacrement opère par lui-même. Et je me souviens moi-même d'avoir eu l'occasion de parler avec une jeune fille qui faisait partie du groupe charismatique de Vannes qui se lançait à ce moment-là, parce que partout les catholiques créaient des mouvements charismatiques. Je me souviens qu'un des prêtres avait été désigné ici pour être celui qui allait chapeauter le mouvement. Il était venu, c'était vers Armel, je crois. Hein, c'est Armel. Il avait demandé des études sur cassette que j'avais faites. Donc il n'avait pas eu le courage de venir me les demander à moi, mais il les avait demandé à Armel, c'était les premières années que j'étais là, c'était 72, 73. Et ensuite, donc il avait mélangé ça à sa sauce, n'est-ce pas? Et puis un beau jour, je vois, on faisait une exposition biblique à la Cohue, au Palais des Arts, je ne sais pas si les plus anciens se souviendront. Et je vois une jeune fille qui vient, ah ben, je fais partie du groupe charismatique catholique, etc. Je vais être baptisé dans le Saint-Esprit la semaine prochaine. La foi, celle-là. Ah bon, je me suis inquiété, je dis, mais ça va se passer comment? Ben, on va m'imposer les mains, puis je recevrai le baptême dans le Saint-Esprit. Ah bon, je dis, quand vous en va vous imposer les mains, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben rien, je serai baptisé dans le Saint-Esprit. Oui, mais enfin, vous allez quoi? Vous allez parler en langue? Non, je vais être baptisé dans le Saint-Esprit. Bon, d'accord, j'ai compris. Très bien. Donc, pas plus baptisé du Saint-Esprit que n'importe qui d'autre, n'est-ce pas? C'était simplement, elle recevait un sacrement. Alors, à Schlossheim, par exemple, il y avait des chants en langue télécommandés, quoi, sur un signe de celui qui dirigeait. Tout le monde partait dans un chant qui se voulait un chant en langue, quoi. Les gens disaient n'importe quoi. Et puis, au bout d'un temps, quand celui qui dirigeait la réunion trouvait que c'était suffisant, un signe et tout le monde s'arrêtait, et puis on passait à autre chose, quoi. Hein. Bon, c'était de la contrefaçon du réveil, quoi. Hein. Là, on sentait bien que c'était ça. Ce qui ne veut pas dire que ça et là, il ne pouvait pas y avoir des choses authentiques. Mais ça voulait dire que, bon, on sentait qu'il y avait cette reprise en main, qu'il y avait cette dérive, il y avait cette volonté de ramener, justement, à quelque chose de beaucoup plus sacramentel. Et alors, on a vu cette évolution sémantique à laquelle je faisais allusion. Donc, catholique pentecôtiste, effusion du Saint-Esprit, puis on a parlé de catholique charismatique, et puis de charismatique tout court. Et alors, on a assisté à un magnifique tour de passe-passe où, en fin de compte, les catholiques essayaient de confisquer le mot charismatique pour eux. Les charismatiques, c'était les catholiques. Les autres, c'était des pentecôtistes classiques ou des néo-pentecôtistes. On appelait néo-pentecôtistes, c'était les protestants traditionnalistes, historiques, n'est-ce pas, luthériens, épiscopaliens et autres, qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était néo-pentecôtistes, et les catholiques étaient les charismatiques. sans toute honte bu, quoi. Alors, Rome, entre-temps, avait organisé en 1974, si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça, 1974, à la suite de l'intervention, alors il y a eu deux autres, une autre rencontre après Schlosskram, peu après, donc à Venise, une rencontre charismatique européenne, qui avait été convoquée, présidée par le cardinal Willebrand, qui était le successeur du cardinal Béat au secrétariat pour l'unité des chrétiens. À cette époque-là, beaucoup de charismatiques catholiques appartenaient à des groupes mixtes, ça veut dire catholiques protestants. Et là, donc, c'était une coexistence qui était assez difficile. En France, avait eu lieu aussi, en 1974, une rencontre de ce type-là à Viviers, présidée par David Duplessis, entre autres, qui avait essayé de mettre les choses au point aussi. Mais finalement, alors que les premiers charismatiques catholiques avaient totalement écarté toute forme de piété mariale, petit à petit on sentait que la piété mariale commençait à revenir petit à petit, et on commençait à prier la Vierge, certains commençaient à prophétiser au nom de Marie, même il y avait des choses comme ça. Alors donc il y avait certaines tensions qui apparaissaient, donc à Venise, c'était la convocation de tous ces groupes charismatiques mixtes. Mais on sentait bien évidemment que la présence du cardinal Willebrand voulait dire que le catholicisme essayait de mettre la haute main sur ces choses-là. Et de fait, à la fin de l'année 1974, a eu lieu à Rome un rassemblement de 200 000 charismatiques venus de toute l'Europe, donc ce qui montre que, de toute l'Europe, du monde entier même, des États-Unis beaucoup, qui avait été présidé par Paul VI lui-même. Et Paul VI avait donc reconnu officiellement, au nom de l'Église catholique, le mouvement charismatique comme quelque chose qui était tout à fait valable, tout à fait acceptable dans l'Église catholique. Maintenant, l'année précédente avait eu lieu un gros traumatisme. À l'été 1973, David Wilkerson, qui était à fond engagé dans le mouvement charismatique, puisque, sans le vouloir d'ailleurs, il en avait été un des protagonistes et un des artisans les plus importants, par son livre, Le Croix et le Poignard, qu'on a vu tout à l'heure, et qui était très impliqué, donc très invité par les catholiques, s'est levé dans une grande rencontre interdénominationnelle qui avait lieu aux États-Unis pendant une espèce d'université d'été. Et là, il a fait part d'une vision qu'il aurait reçue du Seigneur, une vision qui concernait la fin des temps. Et bon, il y avait un certain nombre de points qu'il a longuement développés dans cette rencontre. Et le dernier point faisait état d'une persécution, justement, des catholiques charismatiques. Les catholiques charismatiques, selon sa vision, allaient devoir sortir de l'Église catholique parce que, justement, ils auraient été persécutés par leur institution. Cette vision a provoqué des gros remous. David Duplessis, notamment, a pris position contre la vision de David Wilkerson. Et les catholiques charismatiques, cette vision, dont on peut se demander si elle était de Dieu, parce qu'elle ne s'est pas du tout accomplie, en tout cas, a eu un effet très négatif sur l'évolution du mouvement charismatique, car les catholiques charismatiques, qui bien entendu ont pris position fermement contre la vision de David Wilkerson, s'engouffrant dans la brèche ouverte par David Duplessis, ont considéré qu'il devait donner des gages à l'Église catholique pour pouvoir rester en son sein. Et la hiérarchie catholique, qui bien entendu avait entendu aussi parler de la vision, a voulu montrer que la vision était fausse et au contraire a donné aux catholiques charismatiques un blanc-seing et une approbation, d'où cette rencontre qui a eu lieu un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard à Rome, au cours de laquelle donc Paul VI a ouvertement et officiellement reconnu le mouvement charismatique comme quelque chose de tout à fait acceptable au sein de l'Église catholique. Donc c'était exactement le contraire de ce que David Wilkerson avait annoncé dans sa prophétie et dans sa vision. Pour accompagner le mouvement, comme ils font toujours, Paul VI a donc nommé un archevêque cardinal responsable du mouvement charismatique. C'était donc le cardinal primat de Belgique, le cardinal Suenens. Cardinal Swenens, qui est allé immédiatement aux États-Unis, qui a fait la tournée des popotes là-bas, qui a pris un peu la température, qui n'était pas plus charismatique qu'autre chose d'ailleurs, qui a été parachuté là, parce que bon, c'était quelqu'un qui était... Et il était clair que le but du cardinal Swenens était de ramener le mouvement charismatique américain notamment dans la pure orthodoxie catholique. Et peu après, le cardinal Swenens a écrit un livre qui s'appelait « Une nouvelle Pentecôte ». Alors, c'était un chef-d'œuvre dans le genre, car le cardinal Swenens essayait de démontrer que l'Église catholique avait toujours été charismatique, somme toute. D'ailleurs, il laissait de côté le mot « charismatique » pour employer le mot « renouveau charismatique », puis « renouveau tout court ». Le mot renouveau, on disait long, ça veut dire ça a toujours existé, ça a été mis un peu sous le boisseau, et puis ça ressurgit. Finalement, disait le cardinal Swenens, il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit, il y a un renouveau dans l'Esprit, car tout catholique reçoit le Saint-Esprit à son baptême, à 8 jours, quand il en lui met de l'eau sur la tête. Il est baptisé dans le Saint-Esprit à ce moment-là. Mais beaucoup n'exploitent pas en quelque sorte ce don. Et somme toute, quand on prie pour quelqu'un, pour qu'il soit renouvelé dans le Saint-Esprit, et non pas baptisé dans l'Esprit, n'est-ce pas ? Et c'était la nouvelle terminologie, j'ai été non pas baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai non pas reçu l'effusion du Saint-Esprit, mais j'ai été renouvelé dans l'Esprit, renouvelé tout court. D'où le mot « renouveau tout court », n'est-ce pas, qu'on emploie aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans les milieux catholiques. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe quand on est renouvelé dans l'Esprit ? Eh bien, c'est que ce Saint-Esprit qu'on a reçu à son baptême se manifeste. Tout simplement. Le cardinal Swenens donc prétendait que les seuls véritables charismatiques étaient les catholiques et que pour être vraiment charismatique, il fallait être membre de l'Église catholique puisque seule l'Église catholique était capable de donner véritablement l'Esprit. Et il faisait donc l'impasse totale sur l'histoire. Il réécrivait l'histoire, un peu comme les Arabes font aujourd'hui. Les pentecôtistes classiques connaissent pas, les néo-pentecôtistes à peine, les seuls vrais, les seuls purs, les seuls véritables. Mais pas le moindre, c'était l'importance de Marie. Marie nous aide à recevoir l'Esprit. Marie est directement associée à l'Esprit, elle est pleine de grâce, et les grâces, donc c'est les charismes, donc elle distribue, elle donne l'Esprit, etc. Et alors, le cardinal Swenens, qui était d'ailleurs président de la Légion de Marie, c'est pas le hasard qu'il avait été bombardé là, donc responsable du mouvement charismatique mondial, catholique, Marie, donc... était le plus sûr moyen pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, la piété mariale, qui avait été pratiquement évacuée du mouvement charismatique, a fait une rentrée en force imposée par la hiérarchie romaine. Et alors, on a vu de très nombreuses prophéties au nom de Marie, autant de prophéties au nom de Marie qu'il y a de prophéties au nom du Seigneur. Petit à petit, les véritables charismes se sont estompés. Pour que ne reste plus que finalement groupe de prière, comme on disait. Donc il y avait des groupes de prière qui se créaient dans les paroisses catholiques. C'était finalement des endroits où il y avait des prières spontanées essentiellement, par opposition à ce qui était liturgique. Et c'est ainsi que le mouvement charismatique a été exploité en Église catholique pour deux raisons. D'abord parce qu'il a apporté un renouveau. Et ça, l'Église catholique l'avait bien senti à une époque où le catholicisme s'essoufflait considérablement après Vatican II. Il y avait une hémorragie incroyable de gens qui quittaient l'Église catholique sur la pointe des pieds. Alors, c'était une manière de ramener à l'Église catholique. On a même vu des tentatives d'évangélisation commune. En France, Thomas Roberts avait créé la Tente de l'Unité, où catholiques et protestants évangélisaient ensemble, étant entendu que ceux qui se convertissaient retournaient dans leurs églises respectives. Vous comprenez bien qu'en France, la majorité, c'était des catholiques. Par conséquent, ceux qui évangélisaient là, les protestants qui évangélisaient, travaillaient en fait pour l'Église catholique. Bon. L'Église catholique a su exploiter à fond, n'est-ce pas, cette affaire. L'épiscopat a donné l'ordre que dans les groupes mixtes catholiques-protestants, les groupes de prière, la piété catholique et la doctrine catholique prévalent. de telle sorte que, au bout d'un temps, les quelques protestants qui se trouvaient dans ces groupes mixtes, se sentant tellement mal à l'aise, l'ont quitté sur la pointe des pieds, ou sont devenus catholicisants pour les quelques naïfs qui sont restés là, qui, très peu nombreux en général, qui se sont mis à leur tour à prier la Vierge, etc. Des centres sont restés dans cette perspective-là, par exemple le centre de Gagnères, la porte ouverte pendant un temps, jusqu'au moment où la porte ouverte, l'équipe de base qui ne se reconnaissait plus du tout dans ce qu'était la porte ouverte a repris ses billes et puis a arrêté les conventions charismatiques qui avaient lieu l'été. Mais en gros, il y a eu donc un repli catholique, n'est-ce pas, sur les positions traditionnelles de l'Église catholique. Et le mouvement de renouveau, comme disent les catholiques, est devenu un des mouvements les plus intégristes et les plus fermés. Alors qu'au départ, le mouvement charismatique était œcuménique, pas obligatoirement sur le plan théologique, mais poussé à la rencontre de l'autre, quoi. Hein. C'est ce qui s'est produit en 82, au moment où Thomas Roberts a organisé la fameuse Pentecôte sur l'Europe à Strasbourg, n'est-ce pas ? Ça a été un peu le champ du cygne de l'œcuménisme charismatique. À partir de là, donc, quand Thomas Roberts est mort, peu de temps après, et que donc les montées à Jérusalem qu'il avait lancées ont échoué finalement, échoué à cause de tensions profondes qui se sont créées justement entre catholiques et non-catholiques pendant le voyage même, la première rencontre, la première montée qui a eu lieu en 1984, il y a eu donc repli sur soi-même. Le mouvement charismatique en Europe, au sein du protestantisme, a reculé. Le protestantisme étant très très suspicieux vis-à-vis de ce qui était charismatique. Quelques charismatiques qui se sentaient marginalisés, comme les gens de charme et autres, n'est-ce pas, ont essayé d'organiser des colloques ça et là pour essayer de relancer l'intérêt pour le mouvement charismatique. On a vu parfois de véritables levées de boucliers contre, en milieu protestant historique, disons. Seul, pour ce qui concerne l'Europe, l'Alsace et un petit peu certains endroits, certaines églises luthériennes d'Allemagne sont restées plus ou moins impliquées dedans. Par contre, en milieu catholique, c'est vrai que le renouveau a eu plus de succès, dans ce sens justement qu'il a servi à revivifier la piété catholique et a servi d'antidote aux dérives du concile. Et la hiérarchie catholique l'a beaucoup utilisé dans ce sens-là. Deuxième point sur lequel le mouvement charismatique a été utile à l'Église catholique, pour redonner des vocations. Vous savez qu'un des gros problèmes du catholicisme à la fin du siècle dernier, c'était justement la crise des vocations en Europe en particulier. Et l'essentiel des vocations qui ont eu lieu depuis une vingtaine, trentaine d'années sont de gens qui sont issus justement des milieux du renouveau. Donc le renouveau a été très utile à cause de cela, même si ensuite ces gens-là, une fois devenus prêtres ou évêques, ont souvent pris du champ par rapport au renouveau. Mais enfin, au départ, c'était cela. Troisième point aussi, qui n'est pas négligeable, c'est que le mouvement charismatique, notamment dans les dernières années du siècle, le mouvement du renouveau plus exactement, comme disent les catholiques, est devenu un exutoire à des gens qu'on avait du mal à caser ailleurs, des gens qui étaient un peu remuants, des gens qui étaient un petit peu, d'ailleurs ceux qu'avait fort bien vu l'évêque du Michigan en 1974, quand il avait dit le gros problème qui sera celui du renouveau, du réveil charismatique qu'il appelait à cette époque-là, dans les années à venir, c'est que le mouvement charismatique va attirer en son sein beaucoup de gens un peu déséquilibrés, qui sont à la recherche de deux choses, d'affection d'une part, ce qu'on trouve dans ces groupes-là, et deuxièmement, la possibilité de s'exprimer. Il est évident que dans les églises traditionnelles, ils n'ont pas beaucoup la possibilité de s'exprimer. Par contre, dans les milieux charismatiques, ils vont avoir cette possibilité. Il avait raison pour une grande part. Tous les groupes charismatiques ou toutes les églises de tendance charismatique ont connu ce genre de problème. Les groupes catholiques n'ont pas été l'exception. Et même, on pourrait dire que beaucoup de groupes catholiques sont devenus un petit peu les endroits où, quand des prêtres ou des responsables ont affaire à des gens comme ça, ils les poussent, ils les aiguillent vers ces groupes charismatiques, ces groupes de renouveau, pour leur donner un petit peu la possibilité d'avoir une exutoire à tout ce qui autrement pourrait être gênant. Et finalement, il y a une dérive du renouveau charismatique catholique, dérive qui vient d'être soulignée par les pouvoirs publics, qui considèrent que finalement, les groupes renouveaux seraient presque en bordure de secte. Vous savez qu'il y a eu même des livres qui ont été écrits il y a quelques années de cela, qui portaient ce titre avec un point d'interrogation, mais quand même, qui disaient « des sectes à l'intérieur de l'Église catholique ». Des sectes, c'est-à-dire essentiellement les groupes renouveaux. Et par exemple, une grande communauté comme la communauté du Chemin Neuf était épinglée dans ce livre, et à son grand âme, bien sûr, quoi. Ils ont même fait un procès, je crois, à l'auteur, etc. Bon, il y a eu toutes sortes de choses. Et là, maintenant, on récidive, et à nouveau, le Chemin Neuf est sur la sellette. Le père Vernet a été obligé de concéder, le spécialiste des sectes en milieu catholique a été obligé de concéder que, de fait, il pouvait y avoir, dans certains milieux de renouveau catholique, des dérives sectaires dont l'Église catholique allait maintenant devoir s'occuper. Donc on en est là pour l'heure, n'est-ce pas? Mais si vous voulez, ce mouvement, pour résumer, conclure, ce mouvement qui était né donc comme un véritable mouvement de l'Esprit de Dieu, ça il faut bien reconnaître que c'était la prophétie de Wigglesworth qui s'était finalement réalisée, qui s'était finalement accomplie, n'est-ce pas? Qui était né donc plein de promesses, qui étaient plein d'espérances, à cause justement des structures de l'Église catholique, de son incapacité à se remettre en question, eh bien, a complètement déraillé, quoi. Finalement, il y avait deux solutions. Ou bien le vin nouveau faisait éclater les vieilles outres, ou bien les vieilles outres étouffaient le vin nouveau. Et finalement, c'est la deuxième hypothèse qui s'est produite. Les vieilles outres ont étouffé le vin nouveau. Alors, bon... c'est dommage, c'est triste que les choses en soient arrivées là, mais hélas, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Bon, quant à Duplessis lui-même, donc, il a essayé d'accompagner le mouvement aussi longtemps qu'il a pu, essayer de freiner un certain nombre de choses, bien sûr, sans beaucoup de succès. Bon, il a été finalement complètement réhabilité par les pentecôtistes classiques, américains, du moins. Il s'est éteint en 1982, donc selon ce qu'avait annoncé en gros le Wigglesworth, si tu es fidèle, tu verras l'essentiel de ce mouvement. Donc nous pouvons conclure que l'essentiel du réveil charismatique prophétisé par Wigglesworth, eh bien, c'est accompli. D'ailleurs, des prophéties à la rue Azusa au début du siècle aussi disait cela, que ce mouvement se répandrait dans le monde entier pendant le siècle qui commençait, puisqu'on était au début du siècle, mais qu'à la fin du siècle, il y aurait un fort réveil et que le réveil s'arrêterait en quelque sorte. C'était l'idée, c'était une prophétie que M. Falgue nous avait rappelée en son temps. Voilà donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire du réveil charismatique mondial dans tous les différents milieux où il a eu lieu. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?